Bonjour mes bien-aimés, en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient multipliées en vous. Nous sommes toujours dans l'étude du texte d'Ésaïe 54 pour essayer de répondre à l'instruction que le Seigneur nous donne en cette saison d'élargir l'espace de notre tente. Nous étions rendus aux versets 11 et 12 qui sont les actions que préconisait Père. Et nous étions en train d'étudier, essayer de comprendre la pensée de Père quand il nous dit « Je ferai tes créneaux de rubis ». Dans la première partie, nous avons pris la peine de comprendre la nuance qu'il y avait par le verbe « faire » parce que l'Éternel nous dit qu'il fera de nos créneaux de rubis. Et nous avons aussi essayé de comprendre de quel créneau l'Éternel parlait, quel était le sens vraiment profond, spirituel des créneaux dont l'Éternel nous parle. Parce qu'il nous faisait comprendre aussi que ce sont nos créneaux, il dirait je ferai tes créneaux de rubis, ce sont nos créneaux et il était important pour nous de distinguer, de discerner de quoi il s'agit véritablement. Il nous faisait aussi comprendre que c'est quelque chose qu'il allait faire avec nous, et que nous n'allons pas être passifs dans ce processus-là. Et il était donc intéressant pour nous de savoir quelle était notre contribution dans ce processus avec l'Éternel. Quand il nous dit « Je ferai des créneaux de rubis ». Amen. Nous avons étudié tout ça et ça nous a vraiment éclairé. Et maintenant, nous allons poursuivre ce message parce que nous arrivons à un stade où moi je suis curieuse. Je suis vraiment curieuse de savoir de quelle nature Dieu parle quand il évoque le rubis. Nous avons vu quand nous étudions les fondements de saphir que quand l'Éternel évoque une pierre précieuse, il fait référence à une facette de sa nature, de ce qu'il est, dont il nous révèle comme ça une dimension. Et nous avons vu que les créneaux parlaient de système de défense, les créneaux parlaient de combat, les créneaux parlaient des affaires, les créneaux parlaient de domaines d'action et les créneaux parlaient aussi des temps de fragilité, des temps de veille que nous devons prendre. Et moi je suis intéressée vraiment de savoir de quelle nature seront donc nos systèmes de défense, de quelle nature seront nos affaires, de quelle nature seront nos temps de veille, ces temps de privilèges que nous prenons avec Dieu, de quelle nature ils seront lorsque l'Éternel les aura faits de rubis. Voilà, donc c'est à ça que va consister cette deuxième partie du message. Amen. Voilà. Éternel Dieu de gloire, Papa, nous te disons merci. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, Papa. Ta miséricorde durera toujours, ô Père éternel. Seigneur, c'est par toi, ô Père éternel, que nous pouvons nous lever chaque matin. Nous te disons merci pour le renouvellement de notre néchama, ô Seigneur, de ce souffle de vie que tu mets en chacun de nous. Alléluia. Seigneur, Dieu de gloire, Papa, en ce jour encore, nous te bénissons. Nous te rendrons d'immenses actions de grâce, de nous avoir permis, Seigneur, Dieu Père Tout-Puissant, d'être comme ça réunis autour de ces ondes, Seigneur, Dieu Père Tout-Puissant, pour partager, ô Seigneur, Dieu Père Tout-Puissant. Oui, Père, parce que tu nous as attirés à toi. Notre Seigneur Jésus dit que personne ne peut venir à lui s'il n'est attiré par toi. Alors, Papa, nous te disons merci. Merci d'avoir eu compassion de nous et de nous avoir attirés à toi. Moi, mes frères, mes sœurs, merci. Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant. Viens et prends toute la place. Oui, demeure dans ton temple et agis. Agis maintenant que nous sommes au de rendez-vous. Tu nous dis d'aller au lieu de l'Isthmie. Oh, Seigneur, comme Habacuc qui se trouvait à son poste. Ô Père éternel, comme Daniel, qui était en jeûne et se trouvait en veille de la sentinelle. Ô Seigneur, comme Ézéchiel, qui se trouvait, Seigneur, au bord de la rivière de Pilat. Seigneur, me voici, ô Père éternel. Ô Seigneur, devant mon pupitre, devant ce micro, ô Seigneur de toi. Saint-Esprit de Dieu, mais je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi, je suis vide sans toi. Emplis ton temple, utilise-le, parle à ton peuple, parle au peuple de Dieu. Car toi, tu sais tout ce que Père fait. Tu sais tout ce que Père veut, que tu libères par nos bouches. Parle par ma bouche. mets les paroles de vie en moi. Mets la parole de connaissance en moi. Donne-nous la révélation de la pensée de Dieu. Fais-nous évoluer dans l'agréabilité de Père. Que toute la gloire lui revienne. Glorifions le nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci. Merci. C'est au nom de mon Seigneur Jésus, au Père éternel, que j'étais ainsi prié. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous parlions des créneaux de rubis. C'est quoi le rubis? Nous savons que c'est une pierre précieuse. Oui, une belle pierre précieuse. Et le rubis, c'est cette pierre précieuse qui est, elle est rouge. Tout comme nous avons vu que le saphir était bleu, que le diamant, il est cristal, il est bleu. Même pas blanc, il est transparent, il est luminescent. Le rubis est rouge. Donc quand on parle de rubis, on parle du rouge. La particularité avec le rubis, c'est qu'il a une nuance de couleur, nous y reviendrons. Et le rubis est une pierre précieuse qui est définie comme une pierre de grande pureté, d'une pureté remarquable, d'une grande valeur. Elle est transparente dans un stade de son évolution. Elle est transparente, elle est pure de cristal, elle est de grande valeur aussi. Et de trois tons, desquels varient d'un rosé pâle pourpre, elle passe par un rouge vif et elle prend aussi la couleur d'un rouge vermeil, d'un rouge foncé. Ces trois teintes de pierre ont des noms différents. Je vais vous expliquer. Nous allons étudier d'abord la pierre pâle pourpre, qui est toujours cristalline, mais qui a une qualité moindre. C'est la pierre que la Bible appelait la sardoine. Le mot sardoine a traduit en français, donc c'est appelé sardoine dans la traduction biblique française, mais ce mot sardoine, dans sa traduction hébraïque, est désigné par des mots différents, parce que ça désigne des pierres qui sont différentes, appartenant à la même famille, mais de nuances différentes. Et c'est important de saisir la particularité, la spécificité qu'il y a dans ces nuances. Donc nous allons voir la sardoine, la première qui est l'Oden, qui puise sa racine dans le mot Adam. Et c'est une pierre qui est de couleur rouge, de couleur terre, de couleur latéritique. C'est une pierre qui est pâle, rouge certes, mais son rouge n'est pas lumineux, il est sans éclat, n'a pas de lumière, il est sans vivacité, il n'est pas parfait de transparence, elle est un peu opaque, elle a des impuretés en elle. Et c'est une pierre particulière parce que cette couleur est attachée à la couleur d'Adam, à la couleur de l'homme. Cette pierre, c'est celle que la Bible a utilisée pour symboliser la nature pécheresse de l'homme, dans toute sa fragilité, dans tout son péché, dans toute son impureté, dans sa mort. Et cette sardoine qui est l'Oden, c'est celle qui se trouve sur le pectoral du sacrificateur. Dans Exode 28, 17, on nous décrit comment il a été donné instruction à Moïse pour que le pectoral du jugement, c'est-à-dire ce grand sac de pierres précieuses que le sacrificateur devait porter sur les épaules et qui devait se placer sur son pectoral et qui faisait partie de l'arsenal de jugement du sacrificateur avec les deux pierres d'onyx sur les épaules. Chacune des pierres précieuses représentait une des tribus. On dit que le pectoral avait quatre rangées de pierres en sachet. Lisons un peu. Dans Exode 28, 17, il est dit ceci. Tu feras le pectoral de jugement, artistiquement travaillé. Tu le feras de même travail que les faudes. Tu le feras d'or, de fil bleu, de pourpre et de cramoisi, et de fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Alléluia, c'est un bon carré. Tu y en chasseras une garniture de pierre quatre rangées de pierres. La première rangée, tu mettras une sardoine, une topaze, une émeraude. La seconde rangée, ainsi de suite. Donc, cette sardoine-là, c'est une variante du rubis. Et c'est cette pierre adamique qui symbolise, comme je disais, la nature pécheresse de l'homme. Elle est opaque, elle n'est pas d'un rouge vif. La deuxième variante de pierre, c'est celle qu'on a appelée le rubis. C'est celle qui porte le nom du rubis. Et ce nom rubis est un nom qui est désigné une pierre de la même famille, mais qui a été apportée au Moyen-Orient, venue de l'Orient, par les Syriens qui travaillaient cette pierre. C'est une pierre qui se trouvait plutôt dans les sous-sols, beaucoup plus à l'Orient, et qui a reflété une nature de pierre beaucoup plus pure, beaucoup plus cristalline, beaucoup plus parfaite, et que les commerçants syriens ont commencé à tailler la pierre et venaient d'en négocier, au Moyen-Orient, venaient d'en négocier cette pierre-là. Et ils ont, et cette pierre de cette nature parfaite a pris le nom de rubis. Le rubis que l'on trouve aujourd'hui dans la joaillerie pour désigner vraiment cette famille de pierres dans son état le plus pur. Le terme rubis prend sa racine dans un mot gad qui a plutôt le sens d'un feu éclatant. Le feu éclatant d'un métal forgé, d'un métal qui sort de la forge. Quand on met le fer avant de le frapper, quand on met le fer dans le feu, il devient rouge, éclatant. Il est presque scintillant. Et c'est de cette racine-là que le mot rubis est sorti. Donc cette pierre était tellement étincelante que l'on a pu la comparer à un feu qui était éclatant. C'est la meilleure des sardoines, le rubis. C'est la meilleure de cette pierre-là. Ézéchiel nous dit, quand nous lisons Ézéchiel dans son verset 15, Ézéchiel, de la part de l'Éternel, adresse une complainte à la région de Tyr. Et il leur dit, « Les enfants de Dedan trafiquaient avec toi. Le commerce de beaucoup d'îles passait par tes mains. On te payait avec des cornes d'ivoire et d'ébène. La Syrie trafiquait avec toi, à cause du grand nombre de tes produits, d'escarboucles, de pourpre, de broderie, de byssus, de corail et de rubis. Elle pourvoyait tes marchés. » Alléluia. Ça veut dire que la pierre de rubis était une pierre vraiment de grand prix commercialisée, qui venait de d'autres régions pour arriver sur ces régions-là. Mais elle était d'une couleur rouge vif étincelante de lumière. Elle était rayonnante de flamme, comparable à la flamme de feu. Elle était transparente et pure. Elle était d'une grande valeur, d'une grande beauté et d'un prix qui était inestimable. Elle parait comme ça les couronnes et les vêtements royaux. C'est important. Ce rubis-là est donc pris et a un symbole particulier. Il symbolise le sang de Jésus, le sang du rachat. Il symbolise le sang du sacrifié à la croix. Il symbolise particulièrement le sang effusé, c'est-à-dire le sang qui sort et qui jaillit des artères. Le sang pur, non encore pollué, non encore touché, ne serait-ce que par l'oxygène. Même l'air n'a pas encore contaminé. Le sang de ce rouge vif, même nous quand nous saignons, lorsque le sang sort de nos veines, il a une couleur toute particulière. Il est vif, il est presque vraiment rayonnant de lumière. Mais quand il dure à l'extérieur, quand il est en contact avec l'oxygène, en contact avec le corps, en contact avec l'environnement, c'est un sang qui coagule, c'est un sang qui devient de plus en plus lourd et qui devient de plus en plus terne, noir, qui prend plutôt une couleur de plus en plus foncée. C'est pareil, le rubis symbolise ce sang qui jaillit des artères, le sang vif de Jésus, qui est plus pur comme la Bible dit que celui d'Abel. Et ce sang vif qui sort, qui doit se charger de nos iniquités, de nos péchés, de nos souillures, de nos infirmités, de nos maladies, de notre mort, qui doit se charger comme ça des péchés que nous consentons de lui soumettre, de présenter à ce sang pur, à déposer à la croix du calvaire. Et c'est ainsi que ce sang vif, donc, devient, se chargeant de nos péchés, devient une autre forme de pierre, qui est le sardios. Et ce sardios est défini comme une pierre d'un rouge vermeil, d'un rouge foncé, très éclatant aussi, une belle pierre, mais pas l'étincelant et le feu du rubis. Et cette pierre rouge foncé, rouge vermeil, que l'on appelle le rouge cramoisi, symbolise ici la nature du racheté, la nature du péché lavé par le sang, la nature du péché neutralisé par le sang de l'agneau. Amen. Donc, ces trois dimensions du rubis, moi j'ai plaisir à voir comment l'Éternel fait ces choses dans la création. J'ai plaisir à regarder cette dimension-là. Donc, on va dire, oui, mais ce n'est pas écrit comme ça dans la Bible, etc. Je lui dis, moi, je demande au Saint-Esprit de m'éclairer. Et comme Jésus nous dit dans la parole, la nature doit nous enseigner. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Jésus lui-même, dans la parole, pour étayer cette parabole, pour se faire comprendre, pour expliquer les choses, s'appuyer toujours sur la création, toujours dans la nature, parce que l'Éternel, notre Dieu, a déjà mis toute sa nature, toute sa beauté dans la nature qui nous entoure, parce que les choses ne sont pas faites au hasard, mes frères, mes sœurs. Et c'est la Bible qui dit qu'il va nous faire des créneaux de rubis. Je ne l'ai pas inventé. Moi, je vais chercher. Pourquoi l'Éternel peut rattacher une action qu'il va faire avec nous, il la rattache au rubis. Pourquoi? Et l'Esprit de Dieu m'éclaire. Amen. Et quand je vais chercher plus loin, je me rends compte que partout où on a utilisé le mot rubis, ou des mots semblables, comme sardoine, comme sardonique, oui, à quoi ça se rattache? Je me rends compte que ça se rattache à trois mots hébraïques différents, mais que l'on traduit toujours comme appartement à la famille de rubis, mais à laquelle on donne des sens qui sont différents. Moi, ça m'enseigne et ça m'enrichit, mes frères et mes sœurs. Parce que là, déjà, je sens que l'Éternel veut nous amener à une autre dimension de la compréhension de l'œuvre de Jésus à la croix. Amen. Ce qui est particulier de savoir encore ici, c'est que le sardios, qui est la pierre rouge foncé, rouge vermeil ici, figurez-vous que c'est celle qui s'est retrouvée sur le fondement de la muraille dans Apocalypse. Ce qui est décrit par l'apôtre Jean lorsqu'il a contemplé la Jérusalem céleste. Moi, je dis que ce n'est pas des choses par hasard. Dans Apocalypse 29, à partir de son verset 18, il décrit ce qu'il a vu. Il dit, la muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, la quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx et le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, etc., etc. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Si on continue la lecture, on voit qu'au-dessus de chaque porte et sur chacune de ces perles était inscrit un nom, le nom d'une tribu. Et je dis que toutes ces choses ne sont pas par hasard, mes frères et mes sœurs. Moi, je suis très intéressée, quand je lis la Bible, de comprendre ces choses. Parce que je suis persuadée que c'est des choses que l'Éternel veut qu'ils prennent vie dans nos vies, maintenant aussi. Que c'est une façon de marcher avec lui. Nous devons comprendre cela, mes frères et mes sœurs. Amen. Oui. Donc nous avons vu que le rubis, dans toute sa pureté, dans toute sa dignité, dans toute sa valeur, dans sa transparence, dans ses couleurs, dans ses variantes de couleurs, nous parle du sang de Jésus, nous parle de la nature de péché de l'homme qui a besoin du sang de Jésus pour être racheté. Ah, je sens que nous allons parler du rachat. Je sens que nous allons parler d'une dimension que nous devons comprendre. Parce que l'Éternel nous dit qu'il va nous faire des créneaux de rubis. Alléluia. Je peux penser, toi aussi mes frères, nous ne sommes pas des tout bébés, nous lisons la Bible, nous comprenons cela. Nous pouvons dire, oui, le sang de Jésus, c'est avec le sang de Jésus que nous bataillons, c'est avec le sang de Jésus que nous vaincrons, c'est avec le sang de Jésus que nous sommes sauvés. Toutes ces choses, nous savons. Mais vous allez vous rendre compte, comme moi-même je me suis rendu compte, que ça va au-delà de ça. Dieu nous interpelle ici à quelque chose de particulier. Dieu veut nous amener à prendre conscience d'une chose qu'il nous appelle quotidiennement à faire avec lui. N'oublions pas que nous parlons là des créneaux, nous parlons des créneaux, et nous avons défini les créneaux comme étant le rempart de défense, oui, mais nous avons donné comme étant aussi un espace de temps que nous devons vivre au quotidien, des domaines d'action dans lesquels nous devons quotidiennement évoluer, agir, que ce sont des temps de fragilité, des temps de veille, des levées et des couchers de soleil. Et les levées et des couchers de soleil, mon frère, ma soeur, c'est tous les jours, c'est pas une fois. Moi, ça m'interpelle, j'ai envie de savoir. Parce que la plupart du temps, Jésus est mort une fois pour toutes à la croix. L'acte de rachat a été déjà posé. Mais il me semble, ici, et comme il m'a semblé pendant l'étude, que l'Éternel nous interpellait à prendre conscience d'une chose dans la marche avec lui. Amen. L'Éternel veut nous parler ici de la notion de l'aspersion du sang du Christ. Je dis bien de la notion de l'aspersion du sang du Christ. Et cette notion de l'aspersion du sang du Christ va nous ramener à trois autres dimensions. La notion de la repentance, la notion de la confession et la notion du recours au sang du Christ. Nous allons voir tout ça. Rentrons un peu plus dans les détails. Quand nous parlons d'aspersion, il y a un terme particulier qui revient, c'est celui de la sanctification. J'ai envie d'élever ma voix aujourd'hui pour dire qu'il est important de faire vraiment un distinguo entre la sanctification et la sainteté. Ça n'a rien à voir. Nous savons que la sainteté, c'est plutôt rattaché à la notion de pureté, et nous devons être saints comme notre Père est saint. Et le Seigneur Jésus est venu mourir à la croix pour que nous soyons saints comme le Père est saint. Et c'est une grâce qui nous est accordée par Jésus-Christ d'être saints. Et que l'œuvre que Jésus fait avec nous, c'est pour nous amener à être des saints pour pouvoir communier avec notre Père. Alléluia. Voilà. Ça, c'est la sainteté. C'est la notion que nous avons étudiée quand nous étudions le saphir. La sainteté est liée au cordon bleu. La sainteté est liée à l'Esprit de Dieu qui nous amène à être des élus. Amen, amen. Voilà. Mais ici, nous devons nous attarder sur la sanctification. Mais j'ai encore envie d'attirer l'attention et de dire, quand on dit souvent sanctification, les premières idées qui nous viennent en esprit, c'est cette notion d'impureté, de dire on est souillé par l'impudicité, souillé par les fruits de la chair, souillé par ces choses, la saleté, etc. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas que ça. J'ai envie que nous comprenions le mot sanctification dans un autre aspect. Le mot sanctification a à voir avec la consécration. Le mot être sanctifié ici, c'est faire en sorte d'être séparé des choses qui sont profanes pour être entièrement dédié à Dieu. La sanctification ici a à voir avec la consécration à l'œuvre de l'Éternel. La sanctification a à voir avec l'état dans lequel nous devons être pour un service sacerdotale avec Dieu. Et en cette saison où Dieu veut marcher avec nous, accomplir avec nous, et il nous a dit, un, il va garnir nos pierres d'antimoine. Deux, il va nous faire des fondements de saphir. Et maintenant, il nous dit, même vos créneaux, je vais les faire de rubis. Parce que toutes ces choses, c'est important pour évoluer avec moi. Amen. Ça a à voir avec les choses qui sont consacrées. Ça a à voir avec les choses qui doivent être mises à part pour entrer dans le service de Dieu, pour entrer dans la collaboration avec Dieu, pour entrer dans le partenariat avec Dieu. Amen. Voilà. Je voudrais que vous ajoutiez cette dimension-là à la dimension simple de maintenir le temple du Saint-Esprit pur par les souillures de notre chair, par les souillures des choses du monde. Ajoutez ce désir qui doit vous animer d'être consacré à Dieu, d'être apte à être partenaire pour l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Ça nous amène ici à... Je veux que nous étudions deux versets pour essayer d'étayer ce que je veux dire. Nous parlons d'être lavés. Dans Exode 30, versets 17 à 21, il est ordonné à Moïse de consacrer Aaron et sa famille pour l'œuvre du sacerdoce. Il est demandé à Moïse, devant le peuple, de consacrer Aaron et ses enfants comme sacrificateurs du temple. Nous savons que la famille des Lévi ont été consacrés Lévites pour assumer le service quotidien dans le tabernacle de façon générale. Mais à Aaron a été donnée la sacrificature royale, a été donnée, et lui et ses enfants, sa descendance, ont été donnés l'œuvre du sacrificateur. Et le Seigneur a indiqué à Moïse une façon particulière de pouvoir les consacrer. Donc, faire en sorte qu'ils soient dépouillés, séparés de tout ce qui peut les maintenir loin de l'Éternel. Amen. Nous allons un peu lire. Tu feras une cuve d'airain. Nous sommes à Exode 30. Je lis à partir de son verset 17 jusqu'à 21. Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Amen. Avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les pieds, les mains et les pieds. C'est un acte, je dois dire, qui est un acte réservé aux sacrificateurs. Lorsqu'ils rentreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour les descendants. Alléluia! Ce sera une loi perpétuelle pour les sacrificateurs que je me suis choisi. Alléluia! Voilà. Dieu dit que ce sera une loi perpétuelle. Et moi, j'ai l'habitude de dire, je ne sais pas si j'ai déjà eu l'occasion de dire dans un de ces messages, en parlant des lois perpétuelles de la Bible. Quand Dieu dit que quelque chose est perpétuel, c'est perpétuel. Ça veut dire que ça traverse les âges, ça traverse même la mort du Christ, même l'Apocalypse, et ce n'est pas abrogé. C'est une loi qui est perpétuelle. Amen. C'est tellement perpétuel cette loi qui a été donnée à Moïse pour ses sacrificateurs des temps anciens, que quand notre Seigneur Jésus est venu, avant d'aller à la croix accomplir sa mission, il a aussi pratiqué cette loi et il a donné comme instruction à ses apôtres. Nous allons lire, allons dans Jean 13, dans son verset, à partir du verset 5 et suivant. Ils sont allés dans la salle haute pour partager, pour prendre la scène. C'était le dernier repas qu'il a fait avec ses apôtres. On dit, il se leva de table, il ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Amen. Il vint donc à Simon Pierre. Et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Ce que je fais, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais, tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Amen. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Alléluia. Pour être entièrement pur. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Ici, le terme pur est particulier. Le terme pur, quand je suis allée chercher pour voir la profondeur de la pureté que nous demande Christ, le mot qui est utilisé pour définir ça parle d'être purifié par le feu. C'est un état de pureté qui rend capable de porter du fruit. C'est un état de pureté qui place les gens sans reproche. Qui reconnaît des gens non coupables. Amen. C'est un état de pureté qui ôte le péché de chacun, qui lave le péché de chacun. Et moi, j'ai médité dessus. Et je dis, Jésus dit, si je ne te lave, tu n'auras point de part en moi. Oui, nous savons que même du temps de Jean-Baptiste, on a été interpellé. Il fallait se baptiser pour aller avec Christ. Il faut croire en lui. Il faut confesser son nom. Et il faut être baptisé pour être sauvé. Jésus nous l'a dit. Dans ce bain de baptême d'eau, nous lave. Amen. Et il dit, si je ne te lave, tu n'auras point de part en moi. Oui. Tu es lavé par le baptême. Tu es lavé par ta foi. Tu es lavé par le sang du Christ à la croix. Oui. Mais Jésus ajoute quelque chose de particulier. Celui qui est lavé, donc celui qui a déjà traversé cette étape, celui qui est déjà, a déjà confessé, celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui a confessé son nom, qui est baptisé d'eau, qui a reçu Jésus tous les jours, il n'a plus besoin que de se laver les pieds pour être pur. Et quand on regarde la signification de l'acte de lavage dans des temps anciens, on savait que les gens marchaient en sandales et tout, et que cet acte de lavage des pieds est assez courant. Jésus lui-même a dit, lorsqu'il est arrivé dans une ville et qu'il a été accueilli chez quelqu'un et que Marie-Madeleine est venue pour laver ses pieds avec ses larmes, essuyer avec sa chevelure et que ça a indigné tout le monde. Jésus leur a dit, mais moi je ne vous comprends pas, pourquoi vous faites de la peine à cette femme qui m'a nettoyé les pieds et qui a essuyé de ses cheveux? Parce que depuis que je suis entrée chez vous, vous ne m'avez pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Ça veut dire que c'était un acte qui était courant. Parce que les gens, pour entrer chez d'autres, devaient se dépouiller de tout ce qu'ils ont transporté dans la rue, de toute la poussière, de toute la souillure, de toute la saleté qu'ils portaient sur eux, pour entrer dans une demeure. Il dit, vous ne m'avez pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Et maintenant, vous vous en prenez à celle qui veut le faire. Amen. C'était des actions qui se prennent. Mais Jésus dit une chose. Jésus dit, si je ne te lave, celui qui est lavé n'a plus besoin que de se laver les pieds pour être pur. Et il dit, moi je reviens plus haut, et il dit, ce que je fais là, tu ne le comprendras pas. Il ne parle plus de l'acte courant, de l'acte commun qu'on pratiquait traditionnellement. Parce que si c'était ça, Pierre aurait compris, puisque c'est des actes communs qu'il pratiquait tous les jours. Il dit, ce que je fais là, tu ne le comprendras. Tu ne le comprends pas encore, mais tu vas le comprendre bientôt. Parce qu'il allait à la croix. Et que l'acte à laquelle il veut nous ramener, c'est un acte de purification. Au-delà d'un simple lavage d'eau, interpeller les apôtres sur la nécessité pour ceux qui ont cru, qui sont baptisés, de se laver les pieds régulièrement afin de prendre part au sacerdoce de Christ. Et au sacerdoce de Christ qui a fait d'eux un royaume de sacrificateurs, un peuple acquis. Parce que nous voyons bien dans plusieurs versets qui nous disent, lorsque Moïse consacrait Aaron, il faisait de Aaron, on le lit dans Exode 19, 6, et au moins dans deux ou trois passages dans Exode, il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Mais avec Christ, il nous redit aussi pareil. Parce que Pierre nous dit, dans 1 Pierre 2, verset 9, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Jean nous reprécise dans Apocalypse aussi, 1, 6, qu'il a fait de nous. Jésus a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Amen. Pour sa gloire. Donc nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous qui sommes baptisés, Jésus fait de nous des peuples de sacrificateurs. Mais il nous précise encore, les choses, que parce que nous sommes lavés par lui, pour être son peuple de sacrificateurs, parfait par lui, pour être sauvés, nous n'avons plus besoin que de nous laver les pieds au quotidien. Pour entrer dans son sacerdoce, pour entrer dans son service, pour marcher en partenariat avec lui. Et ce lavage, pas un lavage d'eau, ce lavage est un lavage de sang. Amen. Il y a un verset aussi qui m'a beaucoup intéressé, j'ai médité dessus, j'ai envie de partager avec vous. Dans Ésaïe 1, au verset 16, il y a une allusion, on le chante souvent aussi, même ce verset, et j'ai essayé de comprendre parce que ça se rapprochait à ce que nous étudions là maintenant. Dans Ésaïe 1, verset 16, il dit, « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Au verset 18, l'Éternel dit, quand vous aurez fait tout ça, venez et plaidons, dit l'Éternel. Ah, nous voilà appelés devant la plaidoirie, en plaidoirie devant le trône de justice de Dieu. Il dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ah, plaidons devant l'Éternel. J'ai réfléchi, j'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, il y a certaininement un mystère dans ce verset, dans ce passage. Pourquoi Dieu dit ça? Pourquoi il dit que si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Parce que visiblement, c'est pas la même chose. Et ici, il y a deux termes qui m'apparaissent. Le cramoisi et la pourpre. Et ça me ramène aux couleurs que nous avons vues tout à l'heure, les variantes des couleurs de rubis. Nous avons dit que la première qui était adamique était une couleur rosée pâle, pourpre. Et la troisième couleur était un rouge vermeil qui était une couleur de cramoisi. Et l'Éternel nous dit que vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige. Mais s'ils sont rouges comme la peau, ils deviendront comme la laine. Oh. Et l'Esprit m'a conduit dans ma recherche à comprendre ceci. Les péchés qui sont comme le cramoisi, c'est ceux qui sont déjà purifiés. C'est ceux qui ont reçu le sang vif de Jésus. C'est ceux qui sont passés par l'état du rubis. Qui se sont chargés donc et sont devenus cramoisis. Nous avons vu que c'était la position du racheté. Alors l'Éternel dit, venez plaider au devant de moi. Si tu es un racheté, je te promets que tes péchés deviendront blancs comme neige. Pourquoi blancs comme neige? Ils sont devenus blancs. Oui, comme neige. Oh. La neige est blanche. Oui. Mais quelque part, en regardant plus loin, je me dis, mais la laine aussi est blanche. Quand on tond la laine, généralement, elle n'est pas colorée d'avance. Quand on tond la laine, la plupart du temps, le mouvement est blanc. Donc, ce n'est pas lié à la blancheur. Parce que même la laine peut être blanche parfois. Ils deviendront blancs, mais comme la neige. Pourquoi la neige? Waouh, je suis bien contente de comprendre que le Saint-Esprit m'explique. La neige, elle fond au soleil. La neige, elle est appelée à disparaître. Dès que monte un rayon de soleil, la neige fond, il n'y a plus. Et j'ai compris que si nos péchés sont comme le cramoisi, si nous sommes passés par l'étape du rubis, Nos péchés deviennent cramoisis et ils disparaissent. Nous sommes blanchis et le péché disparaît. Dans la lueur de la lumière de Christ, le péché fond, il disparaît. Dieu dit, je ne me souviens plus de vos péchés. Quand il passe par le sang de Jésus à la croix, Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Ils y seront blancs comme neige. Oh, alléluia. Mais s'ils sont rouges comme le pourpre, c'est-à-dire si tu demeures à ta position adamique, si tu demeures sur la couleur de ton pâle rosé, là, dans ta nature imparfaite, et que tu ne passes pas par l'étape du rubis, du feu étincelant, du rouge vif, du sang effusé à la croix, tes péchés vont devenir comme de la laine. J'ai dit, waouh, et la laine, comment est-ce que on définit cette laine? Quand je pars regarder comment est-ce qu'on définit le mot laine, souvent ici, dans notre nature, quand on a déjà prêté la laine, on dit, oh, le pull, il est doux, le pull, il est... Non, là, on nous définit la laine comme étant une matière rugueuse qui gratte, qui pique, qui est inconfortable sur la peau. L'Éternel nous dit que si nous, nos péchés sont rouges comme le pourpre, si nous demeurons dans notre état adamique, nous serons inconfortables, nous serons malades, nous serons atteints, nous serons troublés. Et il dit, venez plaider devant moi. Moi, je suis sur mon trône de justice, j'attends. Venez, donnez-moi vos arguments et je verrai si vos péchés sont de cramoisis ou s'ils sont de pourpre. Oh, Hachabak. Mes frères, mes sœurs, la notion de rubis, là, nous interpelle ici à... nous fait voir qu'il y a une étape fondamentale, qui est l'étape du sang rouge vif, l'étape de la croix du Christ, l'étape du sang effusé. Je vais préciser quelque chose. Je ne pense pas que je m'adresse, je ne parle pas aux païens, parce que dans Ésaïe 54, Dieu ne parle pas aux païens, il parle à son peuple. Et même là, dans les versets, même quand Christ vient et pose ses actes, il parle à ses apôtres, il parle à nous. Il dit, si vous êtes lavés, qui est lavé? Ceux qui ont cru. Donc, il parle aux enfants de Dieu. Ces précisions vont à l'enfant, aux enfants de Dieu. On ne parle pas aux païens pour dire, ah non, ils sont encore dans le péché, ils n'ont pas encore cru. Et qu'ils vont aller, le sang de Jésus va les... Nous parlons de ceux qui ont déjà franchi cet état. Nous parlons de toi, de moi, mon frère. Ici, ces clés de rubis s'adressent aux personnes qui sont déjà en Christ, qui ont déjà cru, confessé, baptisé. Et l'Éternel nous dit, pour progresser avec moi, pour entrer dans le sacerdoce royal, pour être un royaume de sacrificateurs, il faut se laver les pieds. Il faut repartir à la croix, à ce sang vif. Il faut me nettoyer. Ça. Amen, amen. Et la notion de, je disais, d'aspersion du sang du Christ, d'aspersion du sang de Jésus, de cette nécessité qui est quasi quotidienne parce qu'on parle de créneaux. Nous avons parlé de lever et de coucher. Nous avons parlé de temps. Nous avons parlé de domaines d'activité quotidienne. Nous avons parlé de remparts de défense. C'est des choses qui sont quotidiennes. C'est des actions qui sont quotidiennes. Et Dieu nous dit qu'il faut laver les pieds. Il a même insisté auprès des apôtres. Pour vous que vous le pratiquiez, vous devez le faire aussi. Et inciter vos frères à le faire. Amen. Voilà comment l'Esprit me fait percevoir les choses. À la nouvelle naissance, quand nous rencontrons Christ, et que nous sommes nés de nouveau parce que nous avons cru, nous avons confessé, deux choses se passent en nous. Nous avons la sanctification, qui est le verdict de grâce qui nous est donné, le verdict non coupable. Nous obtenons cela par le sang, par la grâce, par le sang de Jésus. La parole de Dieu nous dit que l'acte qu'il a posé à la croix, l'acte seulement, une fois que l'acte est posé, ça a effacé les péchés dont les ordonnances nous condamnaient. Ça a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Mes frères, mes sœurs, je veux vous dire une chose que j'ai compris. C'est que cet acte à la croix ne se limite pas à ceux qui ont cru. C'est que ceux qui ont cru ont déjà eu l'opportunité de saisir leur grâce. Cet acte à la croix est universel, c'est pour tous. Même les païens ignorent cela encore. Ils n'ont pas encore pris conscience que leurs actes, que les actes qui les condamnaient sont effacés. Ils n'en ont pas encore conscience. Et quand tu n'as pas conscience de quelque chose que tu ne peux pas posséder, tu ne peux même pas en jouir. Et ça m'a fait beaucoup comprendre pourquoi je dois séparer l'acte de crucifixion à la croix de Jésus avec ce que l'Éternel veut me faire comprendre par l'aspersion de son sang effusé. Ah, voilà.